Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Nous poursuivons cette fois-ci le balado avec le premier vrai canal de la Chine. Le 17 juillet 1821, John Richardson, président nommé par le gouvernement du Bas-Canada, leva enfin la première pelletée de terre symbolique en présence des commissaires François Desrivières, George Gordon, Charles William Grant, Thomas Phillips, Thomas Porteous, David Ross et du secrétaire Frédéric Griffin. Burnett demeura l'ingénieur en chef du projet et ses travaux furent exécutés par les sociétés Bag & White, McKay & Redpath et Phillips et White. Plus de 500 employés, en grande partie irlandais, y travaillèrent et les travaux coûtèrent 109 601 livres, les livres anglaises. Ouvert à la circulation le 24 août 1824, le canal fut cependant complété qu'au printemps de 1825. Il se trouvait dans l'axe du lac à la Loutre, mais plus haut que le lac à la Loutre pour éviter d'être inondé, et de la rivière Saint-Pierre, dont il suivait le parcours à proximité du port de Montréal, long de 8 milles. Sa largeur était de 48 pieds et la surface contre 25 au fond, et sa profondeur de 54 pouces. 7 écluses de 100 pieds de longueur sur 20 de largeur permettaient de franchir la dénivellation de 47 pieds. 3 près du port de Montréal et une à Saint-Gabriel, à la hauteur de l'actuelle rue des Seigneurs, 2 à Côte-Saint-Paul, plus une écluse régulatrice à la Chine. Très important. Les murs du canal étaient en terre, maçonnés dans les écluses. Ils avaient là 6 pieds d'épaisseur, sauf à la Chine, où l'écluse fut percée dans le roc. Le fond des écluses comportait un arc inversé, afin de prévenir toute déformation imputable aux infiltrations d'eau et au cycle gel, dégel, gel, dégel. À chaque printemps, il fallait réparer le mortier de chaux éteinte et de sable mordant qui réagissait mal aux rigueurs de l'hiver. Les portes à double vantaux furent construites en bois renforcé de métal. Elles étaient actionnées à la main par un système de treuil utilisé jusqu'à l'électrification en 1951. Pas moins de 13 ponts enjambaient le canal et des tunnels d'égout passaient dessous. 3 ponts à la Chine et à Montréal étaient en pierre et les autres étaient en bois. Une palissade en bois clôturait le canal, mais il fallait très vite la remplacer par une clôture en pierre à cause du vandalisme. Maintenant, les travaux du milieu du 19e siècle. Pour combattre l'influence néfaste du canal érié qui drainait vers New York, 50% du trafic des grands lacs destinés au port de Montréal, l'amélioration du réseau canadien de canaux s'imposait. Après avoir étudié la possibilité de prolonger le canal jusqu'en aval du courant Sainte-Marie, tel qu'envisageait initialement, il fut décidé de conserver les traces existantes. Les travaux débutèrent en 1843 sous l'égide du Bureau des travaux publics. La largeur du canal fut alors portée à 120 pieds en surface et 80 au fond, avec 9 pieds de profondeur. Les travaux permirent aussi de réduire le nombre d'écluses du canal à 5, en éliminant une écluse à proximité du port de Montréal et une autre à Côte-Saint-Paul. Le sas, c'est le bassin des écluses, était long de 200 pieds. La largeur fut portée à 45 pieds et à une profondeur de 9 pieds. Les écluses furent construites en pierre de taille avec mortier hydraulique. Les portes étaient en poutre de chêne et de pin, transpercée par des longs boulons de fer et renforcée par des attaches en chaîne. Des vannes en fonte actionnées par des criques et situées au bas des portes facilitaient l'admission de l'eau. Quant aux portes, elles étaient actionnées par des chaînes reliées à des cabestans. À l'entrée de la Chine, on construisit aussi une deuxième jetée en coffrage de pierre, poutres et maçonnerie. La jetée avait une largeur de 21 pieds sur une base de 29 pieds et une hauteur de 7 pieds. L'administration occupait la maison de pierre avec toit en fer blanc, ou qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui sur la rue Mille. Au cours des années suivantes, les événements se précipitèrent. Introduction du service de diligence entre Montréal et la Chine, via les tanneries de Saint-Henri, en 1842, construction du chemin de fer entre Montréal et la Chine, en 1844, 8 ans après le chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu, construction du chantier maritime d'Augustin Quentin, en 1846, autorisation en 1847 de tirer de l'énergie hydraulique du canal par la construction de canaux d'amener privés ou de dérivation, actionnant des roues à aubes, ce qui entraîna l'industrialisation accélérée à ce moment-là des rives, la construction du chemin de fer du Grand Trunk, ce qu'on appelle le Grand Trunk, ou le Grand Tronc, dans le lit asséché du lac Alaluit en 1850, puis la gare Bonaventure en 1853, et des usines ferroviaires de Pointe-Saint-Charles pour la construction et l'entretien du matériel roulant. Et tout ça vers les années 1856. La construction du canal de l'Aqueduc en 1856. La construction du pont Victoria en 1859. Puis événement des tramways à chevaux sur la rue Notre-Dame le 29 novembre 1861. Montréal connaissait un développement exceptionnel et de nouveaux villages et quartiers comme Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Saint-Anne, Saint-Henri, Sainte-Cunégonde, virent le jour sur les rives du canal. Donc voilà, et en espérant que cette partie d'histoire vous a plu, la prochaine partie, nous parlerons justement des nouveaux travaux qui vont débuter.